trouver.
Merci Vincent, à tout à l'heure pour d'autres infos.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes vendredi. C'est donc la libre antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. On attend donc vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos commentaires, vos analyses. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux. La page officielle d'Appel sur l'actualité, c'est RFI Appel sur l'actualité. Et n'oubliez pas évidemment de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler et vous donner évidemment, la parole sur l'antenne. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est votre rendez-vous quotidien pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions. Là aussi, toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas, aucune question n'est stupide. On les aime bien et on va y répondre, évidemment. On est là pour ça, avec nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Et la première question, elle nous vient du Bénin. Nous allons à Cotonou, exactement. Bonjour Kalilou.
Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez des questions, vous, concernant Medine et Mouche. Medine et Mouche, on en parle beaucoup ces jours-ci. C'est le tueur présumé de 4 personnes en mai dernier à Bruxelles, au musée juif de la capitale belge. Et on reparle de lui car on a appris qu'il était l'un des geôliers d'otages occidentaux détenus en Syrie, et notamment des 4 journalistes français libérés en avril dernier. Et vous avez donc des questions concernant cet homme, Medine et Mouche.
Oui, je pensais qu'il avait été en contact avec le commandant de l'OI en Syrie. Alors, je voudrais savoir comment il a pu se rendre en Syrie et revenir en France sans inquiéter pas les autorités françaises.
Alors, on va essayer effectivement de comprendre son parcours avec David Thompson. Bonjour David.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique d'RFI. Vous avez enquêté sur ces Français qui sont tentés par le djihad et ils sont de plus en plus nombreux. On dit qu'actuellement il y aurait 800 personnes, entre 800 et 900 Français tentés par le djihad. Certains sont déjà physiquement sur place, c'est ça?
Absolument. 800-900, c'est concerné, c'est-à-dire concerné. Là-dedans, il faut comprendre les gens qui sont sur place, les armes à la main, les femmes, les enfants, les hommes, mais aussi les gens qui sont tentés d'y aller et ceux qui sont revenus. Donc sur place, on estime qu'on a à peu près 500 ressortissants français, dont 300 dans les rangs de l'État islamique, et le reste se répartit sur les autres brigades, en particulier Jabhat al-Nusra, la branche officielle d'Al-Qaïda.
Alors, Medine et Mouche quitte la France en décembre 2012. Il part en Syrie, c'est ça? Comment fait-il, d'abord, un, pour se rendre en Syrie, et deux, ensuite, revenir en France sans être inquiété?
Alors, pour se rendre en Syrie, là, on parle d'une époque où les combattants français partaient relativement facilement. Les autorités n'avaient pas conscience de l'ampleur du phénomène. Les autorités françaises restaient arc-boutées sur cette idée que le djihad dangereux pour la France, c'est l'Afghanistan, c'est le Waziristan, c'est ces pays-là, le Pakistan également, le Cachemire. Et en fait, ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'était à ce moment-là, pendant l'année 2012, la Syrie, alors que pourtant, à ce moment-là, tous les djihadistes se rendaient là-bas, même ceux qui étaient dans les zones afghano-pakistanaises faisaient le chemin inverse pour se rendre en Afghanistan. Donc les Français partaient très facilement, sans presque prendre de précautions. En revanche, le retour aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile. Medine Mouche n'est pas rentré aussi facilement que cela en France, puisqu'il s'est fait arrêter au moment même où il a passé la frontière. Il a essayé de brouiller les pistes en passant par des destinations en Asie, avant de se rendre en Belgique. Donc, en Belgique, il a pu commettre, peut-être, puisqu'il est présumé, il ne revendique pas, il est soupçonné d'avoir commis ses actes au musée juif de Bruxelles, mais en tout cas, s'il a pu revenir après avoir combattu pendant un an et demi, si je ne me trompe, dans les rangs de l'État islamique, c'est parce qu'il a réussi à brouiller les pistes. Et ça montre bien qu'il y a des failles, et les djihadistes les connaissent et ils s'engouffrent dedans.
Autre question, Kalilou.
Puis je voudrais aussi savoir comment ces djihadistes sont recrutés. Est-ce qu'il existe des réseaux de recrutement en France?
Alors, comment ces djihadistes sont-ils recrutés? Internet, les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus.
Oui, ils sont, on peut dire, auto-recrutés, puisque c'est des gens qui, en autodidacte, très rapidement, intègrent cette idéologie djihadiste en lisant des textes traduits en français sur Internet, bien souvent, puisque 90% d'entre eux ne parlent pas arabe, en regardant des vidéos également. Donc, ils intègrent tout cela, et très vite, ils ont la conviction qu'il est de leur devoir, qu'il est important pour leur salut personnel de quitter la, entre guillemets, la terre de mécréance, la France, enfin, toute terre, même les pays arabes, pour se rendre en Syrie, seule terre d'islam valable. Donc c'est en fait c'est un auto-recrutement. Là en France récemment on parle beaucoup en ce moment de d'un jeune français qui est présenté comme un recruteur. Moi j'emploierais plutôt le terme de facilitateur puisque c'était des gens qui aidaient les autres à venir, mais ils avaient face à eux pas des gens qu'il fallait recruter, des gens qui étaient demandeurs. Ouais. Et par ailleurs
toute
personne.
Oui. En parlant de Murat Fares qui a été arrêté en Turquie et extradé en France il y a à peine deux jours, lui se vantait sur les réseaux sociaux d'être le principal recruteur des Français qui partent en Syrie.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, avant même d'avoir ce statut en Syrie, c'était quelqu'un qui était déjà très connu dans la petite djihadosphère sur Internet, si on peut employer cette expression, puisque c'est quelqu'un qui réalisait des vidéos en France de prédication pour inciter les jeunes à partir en Syrie, s'installer, faire la hijra, c'est-à-dire l'émigration en terre d'islam. Et ces vidéos ont eu un impact très fort.
Ouais, c'est dans ces vidéos, c'est quoi? C'est du lavage de cerveau, de l'endoctrinement, ou déjà à la base, les potentiels candidats rêvent déjà de faire le djihad?
En l'occurrence, ces vidéos-là précisément parlent de quelque chose qui peut paraître tout à fait abstrait aux gens qui ne connaissent pas cette idéologie-là, mais qui présentait en fait la Syrie comme la terre où se déroule actuellement une grande prophétie mondiale, celle de l'apocalypse. Et au moment de l'apocalypse, du retour du mardi sur terre, bien, il faut être du bon côté. Le bon côté, selon ces vidéos, c'est celui des djihadistes. C'est une lecture eschatologique de l'histoire, et ça, il faut bien comprendre que tous les djihadistes, aujourd'hui, ont ça en tête profondément ancré, ils en sont convaincus.
Ouais, mais il y a des filières bien structurées de recrutement?
Au départ, c'était vraiment très artisanal. Au départ, 2012-2013, les gens se rendaient sur place après avoir échangé quelques chats Facebook avec des personnes comme celles dont on vient de parler. Et c'est vrai que après, au bout d'un moment, il y avait quand même beaucoup de gens sur place. Là-bas, si on parle de plusieurs centaines de Français, donc ça s'est structuré, ça s'est organisé. Donc on peut parler aujourd'hui, même si c'était pas le cas encore en 2012-2013, de filières qui se sont progressivement organisées, oui.
Merci beaucoup, David Thompson, d'être venu dans ce studio. Je rappelle que cette enquête sur les Français tentés par le djihad a été publiée aux éditions Arène, et elle s'intitule « Les Français djihadistes », à lire absolument si on veut mieux comprendre ce phénomène. Merci David, à bientôt.
Merci.
Kalilou, on vous souhaite évidemment une bonne journée à Cotonou. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va parler maintenant de la Somalie. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez d'Abidjan, nous vous écoutons.
Ok. J'ai appris sur votre antenne que le chef des Shebab a été tué par un drone américain. Et alors, j'ai deux préoccupations. La première, est-ce que les Shebab sont-ils réellement affaiblis par la mort de leur ancien chef? Et la deuxième question, qui est vraiment ce nouveau chef?
Alors, c'est vrai qu'il y a tout juste une semaine, les États-Unis annonçaient la mort du chef Shebab Ghodan, tué lors d'une frappe aérienne. Bonjour Laurent Marchal.
Oui, Roland Marchal.
Roland bonjour. Marchal, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à Sciences Po, vous travaillez notamment sur la Somalie depuis de nombreuses années, c'est un pays que vous connaissez bien. Les Shebab affiliés, rappelons-le, à Al-Qaïda. Ghodan, ce chef qui a été tué il y a tout juste une semaine, était l'une des 10 personnalités les plus recherchées pour terrorisme par les États-Unis. Est-ce que sa mort est un coup dur pour les Shebab?
Oui, c'est un coup dur dans la mesure où Ahmed Ghodané était l'un des membres fondateurs et sans doute celui qui, depuis 2008, a dirigé l'organisation, a maintenu, disons, une discipline interne, a su faire face à des défaites significatives, à des crises également internes importantes, et en même temps a, maintenu une présence militaire ou terroriste significative à l'intérieur de la Somalie, mais aussi, on le sait aujourd'hui, au Kenya. Donc, si vous voulez, oui, c'est une perte importante, mais en même temps, quand on regarde l'histoire sur le long cours, on voit que cette organisation a été capable de se réinventer suivant des conditions changeantes de la guerre, Et d'une certaine façon, il est probable qu'elle elle survivra à la mort de ce leader et que l'issue de la guerre n'est pas encore dite. Dans la mesure où sa capacité de résistance et sa capacité d'initiative ne semblent pas diminuer malgré des défaites, malgré une présence militaire internationale beaucoup plus forte à l'intérieur du pays et une politique très active de la région.
Ouais, les Chebab ont promis de se venger, de venger la mort de Godane. D'ailleurs, 12 civils ont été tués et une trentaine de personnes blessées en début de semaine à Mogadiscio, dans la capitale. Un attentat suicide qui visait la force de l'Union africaine. En tout cas, les Chebab ont rapidement désigné un nouveau chef. Qui est-il? A-t-il la carrure de Godane?
Alors écoutez, il est intéressant dans la mesure où il montre bien comment une certaine politique occidentale a radicalisé ce mouvement et l'a amené dans les mains de Al-Qaïda. Il est né à la frontière éthiopienne. Il a passé une bonne partie de sa vie dans le sud de la Somalie, dans la région qui est frontalière avec le Kenya. Il était enseignant d'une école coranique. Tout ce qu'on sait de cette période-là, y compris lorsqu'il rentre dans des mouvements islamistes armés, et décrit une personne qui est finalement assez raisonnable dans son engagement, qui sait écouter, qui se montre patient, qui a une certaine ouverture d'esprit. Alors c'est pas exactement le portrait qu'on pourrait donner de lui ces deux dernières années, dans la mesure où, sous le coup d'un certain nombre de défaites, Al-Shabaab s'est rapproché très significativement de Al-Qaïda, notamment de Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc qui est très active au Yémen, oui. et à partir de ce moment-là, s'est retrouvé toujours sur des positions très dures. Qui était celle de Godane, qui est d'ailleurs un de ses parents, qui avec qui il est cousin par les mères.
Mmh, effectivement.
Donc on a aujourd'hui quelqu'un qui a été à la fois gouverneur pour cette organisation de deux régions très peuplées du centre-sud de la Somalie, quelqu'un qui a travaillé dans les services de renseignement de Shabab et qui à ce titre a organisé de très nombreux attentats contre les forces internationales ou les forces gouvernementales somaliennes, hein, donc avec des dommages collatéraux impressionnants, et aussi quelqu'un qui dans la toute dernière période s'est occupé de l'économie du mouvement, des finances de ce mouvement. Et donc on peut penser que d'un côté il n'a pas le charisme qu'avait Godane, il n'a certainement pas la culture religieuse et idéologique qu'avait Godane, qui avait passé quand même pas mal de temps en Afghanistan et qui était quelqu'un de très studieux dans son genre. Mais d'un autre côté aussi, on voit qu'il a dans les deux dernières années construit les connexions qui pourraient lui permettre de rester à la tête de l'organisation. En attendant une prochaine frappe américaine.
Ouais, effectivement, puisque les Américains vont continuer leur frappe, c'est ce qu'ils ont dit. Roland Marchal, en quelques minutes, on accueille Ambroise de la région parisienne. Bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute également sur la Somalie.
Voilà, moi, ma question elle est toute simple. Face à tous ces événements que nous relate RFI, quelle est aujourd'hui la part de territoire contrôlé d'une part par les Chebab, de l'autre par le gouvernement somalien?
Alors, qui contrôle quoi en ce moment, Roland Marchal, en Somalie?
Alors, il faut distinguer, l'ancienne colonie italienne, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le Somaliland. Alors, dans l'ancienne colonie italienne, dans tout le centre-sud de la Somalie, d'une façon générale, on peut dire que tout ce qui est proche de la frontière éthiopienne est contrôlé par des milices soutenues par l'Éthiopie. La même chose, plus ou moins, du côté kényan. Par contre, et les grandes villes de l'intérieur et de la côte sont, à quelques exceptions près, contrôlées par les forces internationales. Et on rajoutera, mais pour la forme, le gouvernement somalien.
Ouais.
Tout le reste et fondamentalement contrôlée par Shabab. Alors, maintenant, il faut nuancer, parce que qu'est-ce que ça veut dire contrôler ?
Oui, en quelques mots.
Oui, contrôler, ça veut dire simplement que il n'y a pas de force qui puisse s'opposer immédiatement à la circulation des hommes d'un groupe d'Amisom ou de Shabab, hein, suivant les zones considérées. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, et ce qui quand même devrait inquiéter un peu aujourd'hui, quand on voit que c'est une stratégie similaire qui est mise en œuvre par le président américain en Irak, c'est que même dans les zones dites contrôlées par Amisom et le gouvernement somalien, l'insécurité règne. La communauté internationale qui se félicite d'avoir repris le contrôle de Mogadiscio, elle reste sur l'aéroport international de la capitale somalienne. Oui. Et quand elle sort, c'est en convoi blindé, c'est essentiellement pour aller dans un autre endroit qui lui aussi est extraordinairement défendu, qui est la présidence somalienne. Donc c'est une victoire qui a beaucoup de... qui doit être nuancée de multiples façons.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roland Marchal, ce matin, chercheur à Sciences Po et spécialiste notamment de la Somalie. Éric Mamrut, hola, ¿qué tal? Bonjour.
Buenos días, Juan.
Buenos días, très bien, on parle un peu espagnol. Vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Madrid, capitale de l'Espagne, Madrid où se déroule en ce moment la Coupe du Monde de basket. Et Roselyn Stéphane a des questions justement à vous poser. Bonjour Roselyn.
Oui, bonjour Juan.
On vous écoute.
Oui, actuellement je suis la Coupe du Monde de basketball en Espagne et je voudrais savoir ce qui explique l'absence de nouveaux joueurs français, en l'occurrence des stars comme Tony Parker, Joaquin Noah, Alessio Andesa. Je voudrais aussi également savoir si cette équipe-là a réellement de chance d'aller au bout de cette compétition, d'autant plus qu'elle vient de battre l'Espagne en quart de finale.
Eh oui, elle a battu l'Espagne. Les Bleus ont créé une énorme surprise, Éric Mamrut. Ils ont battu les Espagnols 65 à 57. Il y a beaucoup d'absents quand même hein, dans les joueurs français.
Oui. Et avant ce tournoi, eh bien, on disait que ça allait être vraiment compliqué pour cette équipe de France, privée donc de Tony Parker, Joaquin Noah, Alexis Aginsa, Kevin Serafin, Nando De Colo, Yann Maimi. Les forfaits se sont accumulés au fur et à mesure qu'arrivait la compétition. Alors les raisons sont diverses pour les uns et pour les autres. Tony Parker, lui, a eu une année très très chargée, que ce soit sur le terrain avec les Spurs, mais aussi sur le plan privé. Il s'est marié, il a été papa, donc en fait il veut se ménager en vue de l'Euro 2015 de l'an prochain, qui d'ailleurs aura lieu en France et qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2016. Et c'est là-bas, à Rio, qu'il va terminer sa carrière internationale. Joaquin Noah, lui, c'est un choix. Eh bien, il vient rarement en fait en équipe de France. Et après, c'est surtout des blessures pour Aginsa, pour Serafin, pour De Colo, pour Maimi. Donc une équipe de France vraiment handicapée au départ, mais qui a fait des merveilles grâce à ses jeunes, grâce à ses leaders. Beaucoup de générosité, beaucoup d'inconstance. En même temps, on a vu lors de la première phase une équipe qui alternait le bon et le moins bon, mais qui, le jour J, face à l'Espagne, a sorti le match parfait. Tout le monde a été au diapason, tout le monde a été très concentré, tout le monde a fait preuve de solidarité, de générosité et a suivi les plans de l'entraîneur Vincent Collet. C'était surtout une victoire tactique face à l'Espagne. Il a su faire déjouer l'Espagne et tout le monde, tous les joueurs ont su vraiment répondre présent et empêcher les Espagnols d'évoluer à leur meilleur niveau.
Donc ces joueurs qui sont, on peut le dire, moins expérimentés que Tony Parker, Joaquin Noah et les autres, qui sont donc plus novices, sont aussi bons que les grandes stars internationales.
Alors ils peuvent être bons sur un match. Mais après, comme le disait Vincent Collet hier en conférence de presse, l'entraîneur, il faut le refaire. Et c'est ça peut-être le plus difficile. Et on va le voir ce soir face à la Serbie en demi-finale. Parce que, comme je vous le disais, lors de la première phase, il y avait un carton qui était très bon et le deuxième qui n'était pas bon. Et ainsi de suite. Il y a eu vraiment des matchs difficiles. L'équipe de France s'est qualifiée sans brio pour les huitièmes de finale. Face à la Croatie, elle a fait un match aussi compliqué. Elle s'est qualifiée. Et face à l'Espagne, il y a eu un jour de grâce. Donc, qu'il faut qu'ils confirment ces jeunes et que la mayonnaise prenne vraiment entre les anciens, ces jeunes-là, et qu'ils soient tous dans un bon jour.
Eh bien, on croise les doigts et on vous retrouve évidemment tout au long de la soirée, Eric Benbrut, à Madrid, pour suivre avec vous cette demi-finale de la Coupe du Monde de basket France-Serbie. Merci Eric, bonne journée. Roselyne Stéphane, on vous remercie de nous avoir appelés. Restez avec nous tout de suite le journal. Et dans 10 minutes, comme promis, la libre antenne.
Appel sur l'actualité. Vous a été présenté par Orange Monnaie. Transfert d'argent.